juste avec vous, Sophia Berada.
C'était un amoureux des mots et de la littérature. Bernard Pivot est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans. L'annonce a été faite par sa fille. Cet homme de télévision a marqué plusieurs générations avec des émissions cultes comme Apostrophe ou Bouillon de culture. Il a fait partie et même présidé l'Académie Goncourt. C'était aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Il a profondément marqué la culture et l'audiovisuel français, Guillaume Fariol.
Bernard Pivot est encore enfant quand il découvre les mots pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais deux seuls livres étaient un dictionnaire et les fables de La Fontaine, raconte-t-il. La langue française, il la manie d'abord comme journaliste jusqu'en 1974. L'année suivante, il lance Apostrophe sur Antenne 2. L'émission devient un incontournable avec des moments devenus cultes. Quand Charles Bukowski, ivre, quitte le plateau...
Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est l'écrivain américain.
Il y a aussi cet accrochage entre Serge Gainsbourg et Guy Béard.
Ah non, c'est Béard qui te parle.
Mais qu'est-ce qu'il y a, le connard, là ?
Et puis bien sûr, les interviews des plus grands, Sartre, Sagan, Le Clésio ou encore Marguerite Duras.
Tous les critiques se disent, mais comment c'est fait ce style ? D'où vient sa séduction ? D'où vient son magnétisme ? Alors là...
Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas.
Comment vous n'occupez pas ?
Du style, je ne m'en occupe pas, là.
Apostrophe reste 15 ans à l'antenne, 724 émissions au total. Bernard Pivot, c'est aussi bien sûr les incontournables dictées.
Garni de pampilles violacées, 3 points. De
en 2004, Pivot devient le premier non-écrivain à rejoindre l'Académie Goncourt. Il en prend la présidence 10 ans plus tard, puis quitte ce poste en 2019. Il explique alors vouloir reprendre une gestion tranquille de son temps.
Point final.
Les réactions pleuvent pour rendre hommage à Bernard Pivot. Celle de Philippe Labro, journaliste, écrivain et ami de Bernard Pivot. Il était libre, indépendant et avait une capacité inouïe à nous faire aimer les bouquins, a-t-il dit.
De nouvelles règles pour les terrasses des restaurants et des cafés de La Rochelle.
Une nouveauté concerne la redevance que ces commerces payent pour avoir une terrasse. Maintenant, s'ils la végétalisent avec des arbres, des plantations, le coût de cette redevance pourra baisser. Autre changement, l'interdiction d'ouvrir de nouvelles terrasses dans les rues Saint-Yon, dans la rue des Merciers ou encore rue du Temple. L'idée, c'est d'éviter une saturation du secteur avec des restaurants et des cafés pour laisser de la place aux autres types de commerces. Tout cela doit être voté ce soir lors du conseil municipal. Des désaccords commerciaux marquent le début de la visite du président chinois en France. Xi Jinping a balayé les inquiétudes européennes face au message de fermeté d'Emmanuel Macron et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est présente à Paris pour l'occasion. Ils accusent Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen la Chine de produire énormément de produits commerciaux, beaucoup plus qu'elle n'en a besoin sur son territoire. Et selon eux, cela fausse la concurrence internationale. Le président chinois a balayé ses arguments. Il doit rester 2 jours dans l'Hexagone.
Il est accusé d'avoir assassiné sa grand-mère avec une tronçonneuse.
Un jeune Charentais de 27 ans est jugé à partir d'aujourd'hui aux assises d'Angoulême. Le drame a eu lieu en mai 2021 au Pin près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente. Le jeune homme s'en est d'abord pris un volet de la maison de sa grand-mère de 76 ans avec sa tronçonneuse avant de se retourner contre elle. Il lui en voulait pour des questions d'héritage. Il a ensuite tenté de brûler le corps. Il nie la préméditation, ses avocats invoquant une décharge émotionnelle. Son procès va s'étirer jusqu'au 14 mai prochain.
Du suspense sur la fin de la Transat en solitaire, Lorient-Neuillan.
L'incertitude est totale pour connaître le vainqueur dans la catégorie IMOCA. Johan Richomme et Boris Herman sont dans un mouchoir de poche pour la victoire finale. Et pour rajouter au suspense, le vent est tombé. Les skippers aux avant-postes sont dans la pétole avant de couper la ligne dans la baie de New York. Yannick Bestaven, qui fait partie du paquet de tête, est actuellement 6e. Il devrait couper la ligne d'arrivée demain dans la journée. Impossible encore de savoir à quelle heure. Le Rochelais peut encore accrocher la 4e ou 5e place, mais il fait du surplace à bord de Maître Coq.
Depuis la deuxième moitié de nuit, le vent nous a laissé tomber et ça devient très compliqué. De faire avancer le bateau, il faut être sur les réglages malgré le manque de sommeil. Pourtant, c'est dans ces conditions-là qu'on irait bien se poser et dormir. Mais on ne peut pas parce que le vent est complètement instable, voire inexistant par moment. C'est assez stressant parce que tous les bateaux sont en train de se regrouper. Et on ne sait pas quelle va être l'issue de cette histoire. Malgré des fichiers météo qui semblent nous donner du vent à venir, pour l'instant, une mer d'huile. Ça contraste avec les jours précédents où on se faisait bien remuer. Mais on garde le moral et on essaie de faire avancer le bateau tant bien que mal. Seul objectif, ne pas lâcher.
Dans la même catégorie des IMOCA, la Rochefortaise Violette d'Orange est 18e. Et chez les classes 40, la Rochelaise Amélie Grassi pointe à la 7e place. Les petites mains du 7e art veulent faire pression. Un collectif de travailleurs du cinéma appelle à une grève de tous les salariés du Festival de Cannes pour perturber l'événement. Il s'agit notamment des projectionnistes, des programmateurs ou encore des chargés d'accueil qui dénoncent la précarité de leur métier. Le célèbre tapis rouge doit bientôt être déployé. Le Festival de Cannes est la semaine prochaine. Le Fort Louvois va-t-il participer à l'émission de Stéphane Bern, le monument préféré des Français? Il est en tout cas candidat pour représenter la région Nouvelle-Aquitaine. L'autre monument candidat est à Andaille, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit du château observatoire Abadia. Les votes sont ouverts depuis ce matin et pour un peu moins de 3 semaines. Celui qui aura le plus de voix sera diffusé dans l'émission sur France 3 lors des Journées du Patrimoine en septembre prochain.